Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Le 10-10 aujourd'hui est consacré à la compagnie de théâtre du Ressort et c'est Simon-Pierre Ramon qui est avec nous. Bonjour Simon-Pierre.
Bonjour.
Alors Simon-Pierre représente la compagnie parce qu'en fait vous êtes quatre, vous avez trois associés si je puis dire.
Exactement.
Qu'on va pouvoir nommer tout de suite.
Tout à fait. Alors donc nous avons Marie-Audrey Simoneau, Juliette Discala et Thomas Fissot.
C'est la parité parfaite.
C'est la parité parfaite.
Deux garçons, deux filles. D'accord. On va commencer par parler un petit peu de vous, si vous le voulez bien, parce que cette compagnie est, j'allais dire, l'aboutissement, en tout cas une grande étape dans votre vie de comédien, mais il y a eu d'autres choses avant. Donc vous, vous venez d'un milieu où on ne faisait pas de théâtre, on lisait peu en fait.
Oui, tout à fait. Mes deux familles sont issues de l'immigration espagnole, donc de la retirada. Ils ont fui Franco. Des deux côtés, ils se sont retrouvés à Agde, et c'est là que ces deux familles se sont rencontrées. Et en fait, mes parents ont tenu des commerces quasiment toute leur vie. Et en fait, ils s'occupaient beaucoup à travailler dans leur commerce, dans leur boutique, et pas du tout...
Peu de temps pour faire autre chose.
Peu de temps pour faire autre chose, et même mon
peu d'intérêt.
Père était quasiment pas allé à l'école, tout ça, donc il dit, voilà, bon bref. D'intérêt, je sais pas s'il y avait pas d'intérêt, mais en tout cas, il y avait pas pour eux d'accessibilité à tout ce qui était culturel, à la lecture, c'était pour eux quasi... Enfin, en tout cas, pour mon père, en tout cas, quasiment élitiste. Ma mère lisait un peu plus et m'amenait au théâtre,
donc elle avait une appétence. C'est là que ça commence, parce que vous allez au théâtre avec votre maman.
Exactement, à la scène nationale de Narbonne, puisque j'ai grandi dans le Narbonnais. Effectivement, en allant à la scène nationale de Narbonne et en voyant des spectacles, j'avais un peu plus de 10 ans et au bout d'un moment, ma mère m'a dit que comédien était un métier.
Oui, c'était pas une improvisation, bien que. Mais enfin bon, ça s'apprend d'improviser.
Mais ça s'apprend. Alors moi, je connaissais rien du tout de tout ça et je voyais des gens qui étaient sur une scène et qui faisaient rire, qui faisaient réfléchir, qui faisaient pleurer. J'étais traversé par plein d'émotions, je réfléchissais à plein de trucs, des problématiques d'adulte ou pas. Et autour de 13 ans, en fait, à force de voir du théâtre, un peu de tout, j'ai dit à ma mère que je voulais être comédien, puisqu'on m'avait dit qu'il fallait faire un métier.
Pourquoi pas celui-là, Poitou ?
Pourquoi pas celui-là ?
C'était tellement facile.
Voilà.
À l'origine. Cela dit, vous entrez quand même dans une école de théâtre, vous prenez des cours, des ateliers, vous êtes encore ado. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez à vous former de façon très régulière, mais sans forcément avoir une véritable formation ? Est-ce que c'est à ce moment-là que ça commence ? Et ensuite, vous allez peaufiner tout ça, si je puis dire.
Exactement, alors je fais l'option théâtre, option lourde au lycée. Je fais le conservatoire municipal de Narbonne vite fait.
Ça veut dire quoi vite fait ? C'est-à-dire vous y alliez une fois sur deux ?
C'est-à-dire que je fais les trois ans en une année.
Ah oui.
En terminale, l'année du bac, j'ai l'opportunité au conservatoire de Narbonne de passer directement en troisième année parce que je pratiquais beaucoup déjà... je m'intéressais énormément, j'ai énormément de théâtre et je travaillais, je bossais beaucoup. C'est quelque chose que je prenais très à cœur quand j'avais des cours de théâtre et autres. Et donc du coup, je me suis inscrit au conservatoire avec un collègue et tous les deux, avec Julien Roussel, musicien et comédien, on s'est inscrit tous les deux, on a fait tout ça en une année. Et après le bac, donc Montpellier, l'ENSAD est créé sous Ariel Garcia Valdés.
On va rappeler ce que c'est que l'ENSAD.
Alors, École Nationale d'Art Dramatique de Montpellier. Et du coup, j'étais en initiation à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, voilà, c'est un peu la classe découverte. Ça se fait en deux ans, c'est 20 heures semaine. Et c'est extraordinaire. On travaille avec Hélène Debussy, on travaille que j'avais à la fac, je faisais Art du Spectacle en même temps. Et Luca Franceschi à la Comédie de l'Art, enfin, on avait Gérard Santi à la voix. Quelques pointures et surtout des gens bienveillants.
C'est ça.
Surtout des gens bienveillants et compétents.
Et vous me dites ça non pas par hasard, parce que par la suite ça a été beaucoup moins bienveillant.
Tout à fait.
Parce que vous avez après effectivement poursuivi votre cursus de formation, là vraiment décidé à être comédien et définitivement inscrit là-dedans. Et là vous allez à Lyon.
Et là, je vais à Lyon, je tente le concours de l'ENSAT, École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon, anciennement rue Blanche, qui a été décentralisée, et pour devenir une école nationale supérieure. Et, Et là, c'est pas la même mayonnaise. Alors déjà, j'ai de la chance, je tente le concours sur dérogation et je l'ai. J'ai 18 ans lors du concours et 19 ans quand je rentre en première année. Et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Je suis plein de vie, de joie. Et je me rends compte que...
D'espoir
énormément. Et là, je me rends compte que c'est pas tout à fait le... C'est pas tout à fait la même dynamique pédagogique.
Alors l'ANSAT était une émanation de la rue Blanche, me semble-t-il, à Exactement. Paris, qui avait fermé.
Ben c'est ça, ils ont déménagé rue Blanche et ils en ont fait l'ANSAT, c'est ça.
Et donc là, ben, vous faites vos 3 ans, qui ne sont pas si simples que ça, sur tout un tas de points de vue.
Hein, tout à fait.
Que ce soit sur le plein point de vue professionnel, le point de vue de l'apprentissage, de la pédagogie, mais personnel aussi.
Exactement.
C'est pas simple. Et vous sortez de là en étant comédien, mais en étant un peu... bousculé, on va dire, si ce n'est cassé, oui. Dans certains, en ce qui concerne par exemple la confiance que vous pouviez avoir en vous.
C'est
là, il y a une petite période de marasme, si je puis dire.
Il y a une période de transition, donc je suis le... Donc je... Bon, voilà, sans m'étaler, voilà, vous avez très bien résumé, effectivement, c'était un peu compliqué dans la vie familiale et ce que pédagogiquement, la ligne pédagogique de la direction de l'ENSAT, c'était assez maltraitant. Et du coup, je sors de là à fraîchement 22 ans et endeuillé de la perte de mon père. Et du coup, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de travail. Et là, grâce à Jonathan Pérez, un super comédien qui vit maintenant au Québec et qui est un grand ami, j'ai vent, en fait, il me donne le contact, parce que lui, en ce moment-là, il jouait au CDN avec Julien Bouffier, donc Les Vivants et les Morts de Gérard Mordia. Il me donne, en fait, un plan pour une audition à Chartres, dans une compagnie conventionnée, pour travailler sur l'anniversaire des 40 ans donc de mai 68. Et ça se passe à Chartres, et c'est 2 ans de boulot, puisqu'il y a plein d'interventions théâtrales. On va travailler des adaptations de Elvire Jouvet 40, qu'on va adapter, qu'on va aller jouer au Théâtre de l'Opprimé dans le 12e arrondissement à Paris. Et là, ça va être une aventure assez folle. Et c'est grâce à Jonathan Pérez, entre autres, et au fait que j'étais déterminé à faire ce métier et à ne pas sombrer dans la dépression post-École nationale, que j'ai pu commencer à faire le métier que je voulais faire.
Alors là, vous prononcez un mot important, on va revenir là-dessus tout à l'heure, c'est le Théâtre de l'Opprimé, dans le 12e arrondissement à Paris. Donc là, vous avez vraiment un pied dans le métier, et il y aura effectivement ce Théâtre de l'Opprimé qui va jouer un rôle important. Mmh. Mais on va voir aussi que votre compagnie est très liée à ce théâtre, parce que vous l'avez pratiqué, connu, etc., mais aussi avec l'Amérique du Nord et le Québec, mais ça sera dans l'épisode suivant. Pour l'instant, oui. Je vous propose une première pause musicale. Vous voyez, ça va très très vite. On a l'impression qu'on a beaucoup de temps devant nous. On se dit, oh, 45 minutes, formidable. Mais non, on sait que ça va très vite. Vous avez choisi un premier morceau de musique, on va l'écouter, et ensuite vous nous expliquerez ce que c'est. Je crois que c'est d'ailleurs une façon d'avoir vos camarades, vos 3 autres camarades présents à l'émission, puisque c'est eux qui ont fait les choix musicaux, me semble-t-il.
Tout à fait, exactement.
Donc à tout de suite, de l'autre côté du disque.
Ha! me stessi una, ora si tranquillita in fa. L'infanzia era plurale, tutto l'anno e l'ubrai saras, non dormiras pas gaire. Ora si lo cutti un pisus, ora si lo davanti al crasu. Sera la malcufado, modira tu lo mai lo giù, che te sei maridato.
FM, Radio FM+. Le Dizis, toujours en compagnie aujourd'hui de Simon-Pierre Ramon, l'un des quatre membres de la compagnie du Ressort. Donc, ce choix musical qui a mis la régie en joie, je ne vous cache pas.
Oui,
vous
oui,
les avez vu tous arriver.
Ah oui, alors là, c'était...
Donc ça, c'est un choix d'un de vos associés.
Tout à fait, Marie-Audrey Simoneau,
voilà,
qui nous a proposé Fillas que c'est sa marida, qui est de la mal coiffée, polyphonie occitane.
Très intéressant comme titre et très agréable à écouter. Et effectivement, ça met en joie. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a parlé du théâtre de l'opprimé, c'est là vraiment que vous avez mis le pied, si je puis dire, dans le métier, pratiquement, que vous avez commencé à en vivre, en fait.
Oui.
Et le théâtre de l'opprimé, on disait tout à l'heure que c'était à Augusto Boal. Alors, c'est une forme particulière de théâtre qui comprend plusieurs branches, si je puis dire, ou plusieurs façons d'agir, c'est ça, ou de
tout
jouer.
Tout à fait, oui, oui. On parle des techniques du théâtre de l'opprimé. Donc, toutes ces techniques-là sont nées dans les années 60 sous la dictature au Brésil. Les années de plomb, tout à fait. Et Augusto Boal et ses collègues avaient vraiment sentaient l'envie et la nécessité, en fait, de par l'outil théâtral, donner grâce à ça des outils au peuple
pour résister.
S'émanciper.
Oui, s'émanciper, résister.
Aller vers une utopie sociale et même faire un état des lieux, vraiment, de qu'est-ce que c'était cette dictature, comment le peuple le vivait, tout ça, et comment en sortir.
Alors ça me paraît très important d'en parler aujourd'hui, parce que nous savons que nous sommes dans une période de très grande droitisation extrême de toutes les sociétés, et de la France, de l'Europe, des États-Unis, etc. Que la dictature n'est jamais bien loin, qu'elle peut s'exprimer de façon extrêmement dure, ou simplement par des lois qui répriment, et en tout cas qui empêchent certains arts de s'exprimer complètement. Et ça, c'est un exemple de la façon de résister et de créer d'autres formes théâtrales qui permettent effectivement aux gens de dire ce qu'ils ont à dire, en prenant des risques quand même. Hein, parce
Tout
qu'il y a
fait.
Des gens qui ont été arrêtés. Alors donnez-nous par exemple quelques exemples de ce théâtre au Brésil, de gens qui ont fait des choses et qui l'ont payé peut-être des fois, mais qui ont pu...
Alors des exemples... Moi, j'ai été formé par quelqu'un qui a travaillé avec Augusto Boal, donc c'est Rui Frati qui dirige actuellement encore le théâtre de l'opprimé à Paris, avec qui j'ai fait mes premières armes. Lui, il aurait beaucoup plus d'anecdotes, mais effectivement, il y a plein de comédiens qui ont fini en tôle, parce qu'ils ont commencé, entre autres, par le théâtre invisible. Parce que le théâtre
donc, il n'y avait plus de théâtre, enfin, il n'y avait plus de lieu de théâtre réservé, où ils étaient réservés, en tout cas, à ce que la dictature pouvait accepter.
Alors oui, j'y connais mal là-dessus. Ce que je sais, par contre, précisément sur la création, l'émergence des techniques du théâtre de l'opprimé, c'est qu'entre autres, le théâtre invisible a été un des premiers outils. C'est en gros l'ancêtre de la caméra cachée. Vous allez dans la rue et vous créez un scandale et vous observez comment les gens se réagissent par rapport à ce conflit dans l'espace public. Et c'est très intéressant parce que vous en avez qui vont prendre parti pour l'oppresseur, celui qui joue l'oppresseur. Personne ne sait que c'est du théâtre, hein. On est vraiment sur de l'immersion, théâtre immersif. et sans le savoir. Donc. Et donc, du coup, il y en a qui vont renforcer l'oppression en soutien à l'oppresseur et d'autres qui vont aller en soutien à l'opprimé. Et là, on voit comment s'articule un petit peu, si vous voulez, la prise de position déjà, qui est déjà politique, mais et qui est dans la rue.
Tous sont des acteurs.
Tous sont des acteurs. Alors, plus acteurs, en tout cas, ils sont
complices.
Acteurs à ce moment-là.
Oui, ou complices.
Ils ne sont pas forcément acteurs professionnels, mais en tout cas, ils vont dans la rue et ils jouent un rôle.
C'est là où il y a de l'impro, en fait.
Et il y a pas mal d'improvisation. Et là, ça va aller loin. Il y a des comédiens qui vont finir en taule, effectivement. Et puis, on se rend compte des difficultés, des limites du théâtre invisible. En gros, hein, on va aller vers le théâtre forum, théâtre image, théâtre forum, théâtre législatif.
C'est quoi le théâtre législatif ?
Ouh, théâtre législatif.
Voilà. On filme l'Assemblée nationale.
Non,
c'est
en gros,
un spectacle.
Alors, je vous expliquerai dans la foulée le théâtre forum. En gros, c'est du théâtre forum, mais axé directement sur tout ce qui va être législatif, politique, juridique. C'est-à-dire que vraiment, on est sur comment juridiquement et au niveau politique aller vers une utopie sociale. Ceci dit, voilà, c'est très compliqué le théâtre législatif et je ne l'ai jamais vraiment pratiqué. Théâtre image, oui, mais du coup, le théâtre forum, on part du théâtre invisible avec ses limites qui est de... qu'en fait, à un moment donné, ils arrêtaient de dire que c'était pour de faux, que c'était du théâtre. Ils ne voilaient pas à la fin. Parce que les gens se sentaient abusés, trahis.
Oui,
comme
oui,
dans une
oui,
caméra
oui,
cachée
oui,
au final.
Oui, tout à fait.
Donc du coup... ils vont développer plein de choses et ils vont se dire bon, on va créer des scènes où ça se termine mal, évidemment. Il y a des situations d'oppression, des choses que vivent les Brésiliens à ce moment-là. Et on va créer ces scènes-là et on va proposer un public averti qui sait pourquoi il vient et qui dès lors va s'appeler spectateur, parce qu'on va inviter ces spectateurs à monter sur scène, devenir acteur, improviser avec les comédiens pour dénouer la situation, dénouer la problématique.
Débriefer dans la scène. D'une certaine façon.
On va débriefer, on va alterner entre débat et action, mais surtout, on va leur proposer d'acter, de venir improviser avec les comédiens, de par l'action, proposer une solution dans la situation. Et par contre, le joker, dans le jargon, celui qui est le monsieur loyal, en gros, qui gère l'alternance débat et proposition par le plateau, du coup va être garant de l'intégrité des comédiens comédiennes et aussi du débat et de gérer tout ça.
Alors pour donner un exemple, nous sommes rencontrés à l'Antigone des Assos, comme ça nos auditeurs sauront tout, et à l'Antigone des Assos, vous m'aviez cité, et c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé, quelque chose que vous aviez fait, me semble-t-il, dans un restaurant universitaire à une table où une fille était agressée.
Exactement.
Racontez-nous ça.
Alors, nous avons Thomas Fissot, comédien de la compagnie, qui rejoint en personnage, hein, évidemment. Nous sommes à la cité Vauban, au site Vauban de l'université de Nîmes. Et Thomas Fissot va voir Juliette Discala et Mario Dressimono, ces trois comédiens et comédiennes étant en jeu, en personnage. Et il arrive à Juliette Discala et il lui dit « Mais pourquoi tu t'es maquillée, chérie? Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu le fais exprès? On avait dit pas de maquillage. Quoi? Ça te fait sourire? Ça te fait rire? Tu le fais pour m'énerver? Eh ben tiens, va te laver. » Et il lui jette un verre d'eau à la gueule. On est sur la terrasse de la cafétéria du site Vauban.
Où là se trouvent des étudiants, des professeurs, enfin, tous les gens qui viennent manger à cet endroit-là.
Exactement. Et qui assistent à la scène, évidemment. Et là, donc nous sommes en plein théâtre invisible, donc, sur la thématique des VSS. Et nous observons, donc, enfin moi, en recul, en tout cas, j'observe qu'est-ce qui est en train de se passer. Et comment réagissent les gens. C'est une scène que j'ai écrite, que j'ai mise en scène, et les comédiens, comédiennes de la compagnie du ressort, donc, jouent cette scène-là, et on observe les étudiants, les étudiantes qui passent, qui vont... prendre
la défense
de Juliette,
oui.
Marie-Audrey jouant une amie du personnage de Juliette.
De la victime.
De la victime, on peut dire, de l'opprimée. Et donc on a plein d'étudiantes qui arrivent en soutien à Juliette. Et du coup, on a, statistiquement, c'est ce qui s'est passé, on a pas mal d'étudiants qui vont en confrontation vers Thomas en disant mais qu'est-ce que tu fous là. Ils essaient de, à leur manière de s'opposer à cette violence et que ça déborde pas.
Donc j'allais dire c'est plutôt encourageant. Hein.
C'est encourageant. Alors on a quand même eu des gens qui sont passés en disant qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi. voilà, on a aussi, c'est ça aussi le théâtre invisible, c'est qu'on fait vraiment une étude sociologique et on se rend compte de qui se détache de
cette groupe. Oppression. Voilà, c'est ça, voilà. Du groupe oppresseur pour venir prendre la défense des victimes. C'est alors, ça. Est-ce que là, vous avez effectivement débriefé avec ces étudiants ou est-ce que vous avez fait vraiment le théâtre de l'invisible ? Vous êtes reparti comme si de rien n'était.
On a eu cette chance. On a débordé la scène dans la cafétéria. On s'est fait dégager manu militari par une caissière. Heureusement, d'ailleurs, ça nous a rassurés. Et du coup, la scène a continué dehors. Et puis là, on l'a arrêté. Et
on a expliqué ce que c'était.
Oui, Via Occitanie nous a fait a couvert l'événement. C'était une journée qui s'appelait C'est pas ça l'amour. Et c'était une journée dédiée au VSS et aux situations de violence au sein des couples étudiants.
Voilà, donc je pense que ça, c'était important de le raconter.
Tout à fait.
Pour qu'on comprenne, que les gens comprennent quel type de théâtre vous pratiquez. Ça n'est pas la seule chose que vous faites dans votre compagnie, mais ça en fait partie.
Exactement. Je voudrais juste rajouter un dernier truc pour clore sur ce théâtre invisible. C'était très important, on a eu cette chance, c'est qu'on a eu plein de... Les partenaires de l'événement du jour, le mouvement Leni, le CIDFF du Gard, on a eu Femmes Solidaires, on a eu des gens formidables, et notamment l'équipe psychologue de l'université qui était là pour encadrer après, parce que nous, on a dit que c'était pour de faux. Et donc, du coup, on a pu libérer la parole. C'est aussi ça, le théâtre de l'opprimé. On a pu libérer la parole sur ce qui a été vu et entendu pendant la scène. Et ça a été une cellule psychologique qui a été très importante post-représentation.
Et ça, c'est très important de le préciser, effectivement, parce que ça montre aussi que ce théâtre-là est un théâtre politique, mais aussi un théâtre de société, où effectivement des sujets de société sont abordés et analysés par la suite, effectivement, comme vous l'avez fait dans cette cafétéria. Deuxième pause musicale, c'est déjà fini.
Déjà.
Et après, on va parler de la compagnie, de ce que vous faites aujourd'hui, en général dans la compagnie, et puis plus particulièrement de certains projets qui vous tiennent à cœur.
Chi è mano, chi è mano? E oggi in questa casa passo mal, tu m'asse mal.
Chi è mano, chi è mano?
E oggi in questa casa passo mal, tu m'asse mal.
Chi è mano, chi è mano?
E oggi in questa casa passo mal, tu m'asse mal. Qui est mal?
C'est la bande à poplitée, ces genoux qui se pavanent.
Qui est mal, oh, qui est mal?
C'est pas très compliqué, ça me rentrera dans le crâne.
Qui est mal, oh, qui est mal?
Oh, ça y est, tu es devenu cocouman. Si tonton t'a dit pas de genoux, pas de coq, ou tata t'invite à tapoter de tes tatanes.
Qui est mal, oh, qui est mal?
Eh ouais, j'y vais à case, pas sur ma tombe, c'est mal.
Qui est mal, oh, qui est mal?
Eh ouais, j'y vais à case, pas sur ma tombe, c'est mal.
Qui est mal?
L'euphorie qui fait du bien, elle vient en chantant ce refrain.
Qui est mal, oh, qui est mal?
Si t'as la pépi, vas-y, va boire un coup et puis reviens.
Qui est mal, oh, qui est mal?
La musique dans les papilles, le tempo dans le bassin. Ta 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 qui ne chante comme le coucou, caquette coquine, qui les coco et maraca.
Qui est mal, oh, qui est mal?
C'est la bande à profiter, c'est genoux qui se bavard.
Qui est mal?
Laisse-toi enivrer par le son de poplité.
Qui est mal, oh, qui est mal?
L'alpaïen en toi résonne, tu ne peux plus t'en passer.
Qui est mal, oh, qui est mal?
Regarde tes genoux, ils se sont mis à danser. Quand la transe du coq ou dans ton corps va éclater, frappe, tape, claque, fais trembler avec tes pieds.
Qui est mal, oh, qui est mal?
La foule en sœur qui danse, que le coucou a mis en transe.
Qui est mal, oh, qui est mal?
Ici, on a de la chance, on a des danseurs.
Voilà, donc ça c'était le deuxième titre qui était choisi aussi par quelqu'un de la compagnie.
Tout à fait, c'est Qui émane de Poplité, que je ne connaissais pas. C'est Thomas Fisseau, comédien de la compagnie du Ressort, qui nous a proposé ce titre et que j'ai découvert et je suis ravi d'avoir découvert.
Tout à fait, ben vous voyez, on découvre toujours des choses sur les gens qu'on aime et qu'on fréquente tous les jours.
Tout à fait.
Au moins au travers de certaines expressions musicales, par exemple,
oui,
dans le cas présent.
on apprend des choses.
Avec qui je parle, c'est pas une question pour un jeu, hein, les auditeurs, vous affolez pas, je vais vous dire tout de suite, c'est Simon-Pierre Ramon de la Compagnie du Ressort. Il y avait déjà des gens qui étaient près de leur téléphone en disant, elle va poser une question. Non, pas du tout. C'est... Simon-Pierre Ramon de la Compagnie du Ressort, et là on va parler de la Compagnie du Ressort. Donc vous pratiquez ce fameux théâtre de l'opprimé et de l'invisible. Vous nous avez donné un exemple. Donc vous avez des projets qui sont dans ce sens, puis déjà d'une expérience. Et puis vous avez aussi d'autres formes plus classiques, si je puis dire, de théâtre, mais quand même toujours avec des sujets très engagés.
Tout à fait. Bon, là, on sort d'un théâtre forum sur la visibilisation et les problématiques que peuvent rencontrer les handicapés au sein du fonctionnariat. Donc, on a travaillé pour Institut Agro. Et là, effectivement, merci de parler donc des projets artistiques de la compagnie.
Mais on peut dire un mot quand même sur ça, sur cette question du handicap dans l'entreprise. Dire un mot rapidement. On peut prendre une ou deux minutes pour ça, ça me paraît important.
Si vous voulez, bien sûr, avec plaisir. Allons-y. On a eu l'opportunité donc de travailler pour l'Institut Agro parce qu'ils voulaient vraiment travailler sur les difficultés que les personnes en situation d'handicap pouvaient vivre au travail. Et notamment l'envie que certains d'entre eux pouvaient avoir de ne pas être définis comme étant handicapés, en situation d'handicap. Et donc du coup, parfois, il y a des handicaps qui sont un petit peu masqués par certaines personnes au sein de leur profession. Et donc on a travaillé pour lever les tabous, pour parler un peu de tout ça et aussi identifier toutes les problématiques qu'au quotidien ils peuvent rencontrer.
Alors sous quelle forme cette fois-ci ?
Ah, c'était du théâtre forum.
C'est-à-dire que là, on reprend ce que c'est que le théâtre forum ?
Alors théâtre forum, c'est du théâtre participatif pour dénouer des conflits. On écrit des scènes.
D'accord.
Et on propose aux spectateurs de monter, au public, de monter sur scène pour dénouer les conflits.
D'accord. Ça, c'est des choses que vous pouvez proposer à des institutions, grosses associations, etc.
Exactement. Etc. C'était une commande de l'Institut Agro et on a travaillé sur ces problématiques. Et on a appris énormément de choses.
Sur le handicap, sur l'entreprise.
Sur le handicap, sur l'entreprise.
Et sur le vécu des uns et des autres.
Sur le vécu, sur... évidemment, le Théâtre Forum fonctionne beaucoup sur l'empathie. On se met à la place d'eux pour pouvoir proposer des choses. Et donc, on a travaillé pour les agents et les employés de l'Institut Agro. Ce sont des gens qui travaillent à l'administratif.
Ce sont des commandes, ça.
C'est une commande, voilà. Et donc, il y avait des administratifs, des professeurs, des gens de la recherche. Et on a travaillé pêle-mêle à différentes situations qui peuvent être difficiles, avec un maillage de problématiques. C'est qu'on a toujours un maillage de problèmes, comme un peu un mikado, si vous voulez. Et on essaie de prendre par un bout et de voir comment est-ce qu'on peut dégager des solutions. Mais c'est toujours en alternant débat, proposition sur le plateau, et surtout l'intelligence collective.
Alors là, vous avez un petit peu, j'allais dire, l'ADN de la Compagnie du Ressort, mais ça n'est pas que ça. Vous êtes en train de travailler sur des projets. Alors, encore une fois, ce sont des projets engagés, en tout cas, qui, à partir d'une histoire, renvoient sur des problématiques de notre société.
Tout à fait.
De l'acceptation de cette société, de vivre dans cette société, de faire société.
Oui,
donc
exactement.
Là, on va parler de deux choses avec peu de bagages. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez reprendre, si je puis dire.
Exactement. Je suis porteur de projet, mais c'est
qui fait écho à votre histoire. C'est pour ça qu'on en a parlé un petit peu au début aussi.
Exactement. Donc c'est sur avec peu de bagages de Jesús Arbués, qui est un spectacle que nous jouons avec Christophe
Fischer. Vous admirerez l'accent ? Monsieur est bilingue, totalement bilingue. Donc, écho à votre histoire, justement.
Alors, oui, tout à fait. Donc, mes deux familles sont issues de la Retirada et ont fui Franco à la fin des années 30. Et effectivement, avec peu de bagages, donc, est un texte merveilleux sur le devoir de mémoire. C'est un texte qu'on a commencé à travailler avec Hervé Lancel. Je lui dois la découverte de ce texte-là. Et ce projet, il était metteur en scène à l'époque. Et puis c'est Bernadette Boucher, directrice de la compagnie de la Loup et metteuse en scène, qui a porté le projet, qui a en tout cas hébergé le projet au sein de sa compagnie. Et je suis le porteur de projet. Je suis un peu coproducteur, je fais de la diffusion, je joue, je fais pas mal de choses.
Et partout.
Ce projet. Comment ?
Vous êtes un peu partout.
Je suis un peu partout sur ce projet-là. Et en fait, il va devenir un projet de la Compagnie du Ressort. En fait.
Donc ça veut dire que ça va être une nouvelle production, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Qui est programmée à quelle échéance ?
Une nouvelle
production. Vous voyez ça quand ?
Alors, ce projet tourne déjà. Il a tourné l'année dernière.
Avec la compagnie, je suppose, de Lalou, oui.
Avec la compagnie de Lalou. Et on va dire qu'à l'horizon de été 2026, ça deviendra, au plus tard, ça deviendra un projet de la compagnie du Ressort. Et il est question que nous allions au lycée français de Barcelone.
Bien. Alors, voyageurs, hein, on a dit un petit mot tout à l'heure sur le Québec, avec lequel vous avez une parenté, mais en tout cas d'une proximité, une certaine proximité.
Oui,
donc, c'est vrai que le théâtre, ça fait voyager au cœur de la société, mais aussi dans les espaces où les choses se passent.
Exactement.
J'ai déjà parlé du Québec, du Brésil, de l'Espagne.
Je ne suis jamais allé au Brésil, mais au Québec, j'ai fait deux créations avec un collectif.
Avec trois années à Lyon, enfin, ça, c'est autre chose.
Aussi trois années à Lyon. Ouais.
Et vous avez un autre projet, alors là, qui est quand même assez étonnant, c'est La femme des bois, enfin en tout cas c'était le nom que lui avait donné Florence Aubenas dans un article du Monde.
Tout à fait.
Et que vous allez monter, parce que c'est, en fait c'est une histoire hein, vraie, mm-hmm. et que vous allez monter vous à la compagnie du Ressort pour la proposer effectivement.
Oui. C'est même le premier projet de création de la compagnie du Ressort, donc nous avons commencé un petit peu à nous y atteler avec Thomas Fissot, Juliette Discala et Marie-Audrey Simoneau, tous les quatre.
Vos trois acolytes.
Les trois acolytes, nous avons cofondé la compagnie. Mm-hmm. Et nous allons faire donc un projet sur cette femme qui a vécu 15 ans dans les bois. C'est exclue de la société pour dans les Cévennes. En Lozère, si je ne me trompe pas, un village de Lozère, a décidé de se bander un œil un jour autour de sa vingtaine et de dixit, donc cette femme ne plus voir que la moitié de l'humanité. Et donc elle va dans les bois et en fait elle va y rester 15 ans.
Et donc elle va grappiller, faucher quelques petites bricoles partout pour arriver à vivre, il fait très froid,
exactement.
Mais elle est dans une terre d'accueil, elle est à un endroit où on est habitué à accueillir les gens et non pas les repousser ou les pourchasser, et là il y aura une association entre le dessin de cette femme, une population qui d'une certaine façon la protège, et évidemment la police qui la recherche.
Oui, oui, oui. Alors c'est très, y a beaucoup de paramètres, beaucoup de choses, c'est très foisonnant et on en est vraiment au début. Mais effectivement ça parle de société.
Une forme de résistance.
Ça parle de la résistance.
Sa résistance à elle.
Sa résistance à elle.
Initiée d'ailleurs pendant son enfance, hein, parce qu'elle n'a pas eu une enfance tout à fait comme tout le monde.
Oui, tout à fait, puisque sa mère, post-68, est partie de Paris pour rejoindre les Cévennes et vivre une autre vie, puisque bon, là, on est en post-événement 68. Et elle est toute petite fille, et puis elle va grandir, et puis c'est donc une fois qu'elle a à peu près, je ne sais plus quel âge, autour de 25 ans, qu'elle part dans les bois.
Mmh.
Et elle vit dans les Cévennes, elle vit dans cette terre d'accueil, cette terre de solidarité qui a connu les Camisards.
Résistance encore,
cette terre de maquis, et où il y a une solidarité forte. Et on parle vraiment de ça, et c'est pas pour rien que cette histoire a pris place dans les Cévennes. Je pense que si, je suis persuadé que si elle était partie dans les bois, dans je ne sais quelle région de France, on l'aurait délogée très vite.
Voilà, ça aurait peut-être pas été la même. On va pas en dire plus, parce qu'on est déjà, on est déjà au bout. Mais alors,
oui.
Ça, c'est pour quand ? Ça s'appellera comment et c'est pour quand ?
Alors, ça s'appelle La Visiteuse, puisqu'on on parle de cette personne qui visite les maisons et qui va voler des petits trucs. Et de manière totalement plus ou moins acceptée et tolérée par les habitants, et pour survivre dans la forêt. Et on pense
qu'à
l'horizon de 2027.
2027. Donc ça, c'est des
début 2027, fin 2026.
Très rapidement, si vous avez aimé écouter Simon-Pierre Ramon, si vous êtes intéressé par cette démarche, parce que c'est une vraie démarche, un vrai engagement, peut-être un numéro de téléphone ou quelque chose où on peut vous joindre, parce que vous
Bien
pouvez
sûr.
Aussi accompagner des gens dans une démarche théâtrale.
Évidemment.
Et des entreprises et des associations qui souhaiteraient
Mais tout à fait.
Profiter de vos talents et de la façon dont vous exercez le théâtre, qui est un théâtre engagé.
Exactement.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Eh bien, écoutez, dans le contact de la compagnie, donc, bon, c'est mon numéro de téléphone, c'est 06 81 38 28 46.
Alors, je répète, 06 81 38 28 46.
Voilà, 81 38 28 46.
Oui. C'est ça. Et c'est Simon-Pierre Ramon pour la compagnie du Ressort. Merci beaucoup,
Exactement.
Simon, d'être venu.
Merci
et à une prochaine
vous.
Fois, j'espère, lors de vos créations, j'en suis certaine.
Avec plaisir.
Merci, au revoir.
Merci.